Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1867, Le Capital, livre 1, est le principal ouvrage de critique de l'économie politique de Karl Marx. Cette édition française, traduite par Joseph Roy et établie par Maximilien Rubel, donne accès au premier volet d'une enquête théorique consacrée au mode de production capitaliste. Marx ne propose ni un manuel de gestion, ni une simple dénonciation morale des inégalités. Il cherche à identifier les mécanismes sociaux qui font de la marchandise, du travail salarié et des accumulations les organisateurs de la société moderne. Le livre suit un mouvement précis, depuis analyse de la marchandise et de la valeur, jusqu'à étude de la production de plus-value, de la journée de travail, de la mécanisation et de l'accumulation du capital. Son ambition est historique autant que conceptuelle, montrer que les catégories économiques paraissant naturelles résultent de rapports sociaux déterminés. Dans ses polémiques, le texte demeure une référence majeure pour comprendre les traditions critiques de l'économie, du travail et des classes sociales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la marchandise comme cellule de base de la société capitaliste. Marx ouvre son analyse par la marchandise parce que, dans une société capitaliste, une grande part des richesses prend cette forme. Une marchandise possède une valeur usage liée à son utilité concrète et une valeur échange qui permet sa comparaison avec des biens très différents sur le marché. Marx soutient que cette comparaison ne peut reposer sur les qualités matérielles des objets. Elle renvoie au travail socialement nécessaire à leur production, exprimé sous une forme abstraite. Cette distinction permet de comprendre pourquoi les relations entre producteurs semblent prendre la forme de relations entre choses et prix. Marx appelle fétichisme de la marchandise ce phénomène par lequel les rapports sociaux de travail deviennent opaques et paraissent inhérents aux objets eux-mêmes. Le concept ne signifie pas que les biens seraient illusoires ou inutiles. Il désigne une invisibilité institutionnelle, les échanges marchands masquent les conditions de production, la division du travail et les rapports de pouvoir. Cette entrée méthodique distingue le capital des critiques qui limitent le problème capitaliste à la cupidité individuelle ou à une mauvaise répartition. Marx examine plutôt une structure dans laquelle la production destinée au marché règle les rapports entre personnes. Deuxièmement, la force de travail et le mécanisme de la plus-value, le point décisif de la démonstration, concerne la force de travail, capacité humaine à travailler que le salarié vend pour une durée déterminée. Marx distingue cette force de travail du travail effectivement accompli. Le salaire rémunère, selon son analyse, la valeur nécessaire à la reproduction du travailleur, autrement dit les moyens socialement requis pour vivre et continuer à travailler. Mais durant la journée de travail, le salarié peut produire une valeur supérieure à cette équivalence. Cet écart constitue la plus-value, source du profit dans le cadre théorique de Marx. Ainsi, exploitation ne décrit pas d'abord une fraude, un salaire impayé par erreur ou une violence exceptionnelle. Elle désigne un résultat normal du contrat salarial lorsque les moyens de production appartiennent aux capitalistes et que le travailleur doit vendre sa capacité de travail pour subsister. Marx distingue la plus-value absolue, obtenue notamment par allongement ou intensification du temps de travail, et la plus-value relative, issus des gains de productivité qui réduisent le temps nécessaire à la reproduction du salaire. Cette analyse relie directement organisation technique, salaire, durée du travail et partage de la richesse produite. Troisièmement, manufacture. Machine et subordination du travail au capital, les chapitres consacrés à la coopération, à la manufacture et à la grande industrie montrent que la technique ne possède pas, pour Marx, un sens social autonome. Une machine peut accroître la productivité et réduire la pénibilité de certaines tâches, mais ses effets dépendent des rapports de production dans lesquels elle est introduite. Dans la fabrique capitaliste, elle peut servir à intensifier le rythme, étendre la discipline, déqualifier certains gestes ou rendre les travailleurs plus dépendants de la propriété des équipements. Marx décrit la division manufacturière du travail comme une décomposition des opérations qui accroît la coordination productive tout en réduisant souvent la maîtrise individuelle du processus. Avec la grande industrie, le système de machines transforme plus radicalement encore le rapport entre ouvriers et outils. Le travailleur tend à devenir un élément du mécanisme productif dirigé par le capital. Cette partie du livre associe donc développement des forces productives et conflit social, sans réduire le changement technique à un simple progrès linéaire. Elle explique aussi pourquoi les luttes sur la journée de travail, la protection des enfants et les conditions de fabrique occupent une place centrale. Les lois sociales apparaissent comme des limites arrachées à une dynamique concurrentielle qui pousse à exploiter au maximum la force de travail. Quatrièmement, accumulation. Concentration du capital et armée industrielle de réserve. Dans son étude de accumulation, Marx analyse la transformation de la plus-value en capital additionnel. le capitaliste ne consomme pas seulement le surplus obtenu une part et réinvesti afin de développer la production, acquérir des moyens techniques et employer de la force de travail. Cette dynamique rend possible une croissance de la richesse, mais elle tend aussi à concentrer les moyens de production entre un nombre plus réduit de propriétaires. Marx relie cette concentration à la concurrence, car les entreprises capables de produire à moindre coût peuvent évincer ou absorber les autres. Il affirme également que les gains de productivité et les transformations techniques peuvent créer une population ouvrière disponible, désignée comme armée industrielle de réserve. Le chômage et la précarité ne sont donc pas présentés comme des accidents entièrement extérieurs au système, mais comme des éléments qui influencent le rapport de force sur le marché du travail et les salaires. Cette thèse ne prédit pas mécaniquement chaque crise ou chaque évolution nationale. Elle fournit plutôt une grille pour interroger les liens entre investissement, automatisation, emploi et pouvoir de négociation. La loi générale de l'accumulation capitaliste formule ainsi une tension : la production sociale peut se développer tout en maintenant ou en renouvelant des formes de dépendance et de pauvreté relative. En dernier lieu, accumulation dite primitive et naissance historique de la propriété capitaliste. La dernière grande section critique, le récit selon lequel les détenteurs de capital seraient devenus riches uniquement par épargne, sobriété et travail préalable, tandis que les travailleurs auraient librement choisi de ne posséder que leur travail. Marx nomme accumulation primitive le processus historique qui a séparé les producteurs de leurs moyens de subsistance et de production. Son exemple central est la transformation des campagnes anglaises, notamment par les enclosures, qui a privé de nombreux ruraux de droits et de ressources communes. Le propos ne consiste pas à nier toute initiative individuelle, mais à montrer que le capitalisme suppose une condition historique préalable des individus juridiquement libres, mais matériellement contraints de vendre leurs forces de travail parce que terres, outils et ateliers sont concentrés ailleurs. Marx associe aussi cette formation du capital à la violence étatique, à la colonisation, au système fiscal et au crédit public. Cette partie est essentielle car elle replace la propriété dans une histoire conflictuelle plutôt que dans une origine naturelle. Elle inverse ainsi la justification libérale spontanée de la propriété capitaliste, ce qui semble être un droit abstrait et égal entre vendeur et acheteur repose, selon Marx, sur une expropriation antérieure et sur la reproduction continue de la séparation entre travail et moyens de production. En conclusion, le capital. Livre 1 convient aux lecteurs qui veulent étudier les fondements théoriques de la critique marxienne du capitalisme, qu'ils viennent de la philosophie, de l'économie, de l'histoire sociale, de la sociologie ou des sciences politiques. Il demande une lecture lente les définitions de valeur, de travail abstrait, de force de travail et de plus-values en chaîne, et les développements historiques servent une argumentation systématique. Cet effort apporte néanmoins un bénéfice durable. Le lecteur acquiert un vocabulaire précis pour distinguer le profit de la simple circulation commerciale, penser les rapports entre productivité et emploi, et analyser la propriété comme une relation sociale historiquement constituée. Le livre ne doit pas être lu comme une prévision infaillible de toutes les économies contemporaines. Plusieurs de ces thèses ont suscité des débats importants, notamment sur la théorie de la valeur et les trajectoires du capitalisme. Sa force réside ailleurs, il propose une explication globale reliant production, technique, droit, classe et histoire. Par rapport aux essais économiques centrés sur les choix individuels ou les seuls indicateurs de marché, il place au premier plan les conditions collectives de production et la distribution du pouvoir. Par rapport au manifeste politique, il se distingue par son ampleur analytique et par son examen détaillé de la fabrique, du salariat et de l'accumulation. Cette combinaison de rigueur conceptuelle, de documentation historique et de critique sociale explique sa place durable dans la culture politique moderne. Si vous souhaitez soutenir Karl Marx, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.